Bonjour à tous et bienvenue dans toujours dans ce cycle de table ronde du Festival des Interiaquiques de Lyon. Cette année, donc, nous travaillons toujours sur cette notion du temps et ça se passe, on est très très contents de ce qui s'y passe. Nous avons déjà reçu hier Marc Lachaiserie et Gilles Adam qui ont fait deux tables rondes, toujours sur ces questions un peu plus pluridisciplinaires. Et nous souhaitions cette année mettre en place un travail de vulgarisation scientifique, des tables rondes qui soient, ou des rencontres, moins tables rondes que de rencontres, sur des notions scientifiques et forcément, comme on travaille sur le temps, la notion du temps en astrophysique, en compagnie de deux astrophysiciens, mais pas que, mais aussi théoriciens, qui nous ont déjà fait hier de magnifiques discours et de rencontres sur ces questions-là. Donc ça fait d'autant plus plaisir de pouvoir prendre le temps, juste avec eux, de discuter de ces notions scientifiques. C'est que j'ai vu que j'étais là, en plus, sur les tables rondes hier, il y a beaucoup de questions que j'avais envie de poser très simplement, mais que j'ai pas envie de poser parce que vous y avez répondu un petit peu hier. Mais on va les reprendre un petit peu à la base. Ce qu'on s'est dit hier, ce que je me souviens, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on ne parle pas de temps, mais on parle de durée. C'est une des synthèses qu'on a eu un peu hier des longues discussions que vous avez eues. Est-ce que vous pouvez m'en retoucher un mot? Donc l'idée, c'est vraiment de partir sur ce côté vulgarisation scientifique. Alors qui choisir? Allez, je prends Gilles qui est juste à côté.
Donc c'est Marc qui a beaucoup insisté à juste titre hier sur le fait qu'on ne mesurait pas vraiment le temps, mais plutôt des durées, bien sûr. Donc quand vous disiez qu'il est 14 heures, c'est simplement parce que vous avez pris arbitrairement un zéro quelque part, et vous avez mesuré le temps qui s'est écoulé depuis ce zéro, cet instant que vous avez considéré comme initial, vous avez mesuré une durée, en fait, et vous appelez ça l'heure, ou le temps, comme vous voulez. Le temps, c'est quelque chose qui ne se mesure pas comme on mesure la température, par exemple. La température, on peut effectivement... On la repère à un instant donné. Le temps, on ne le repère pas à un instant donné. On mesure le temps qui s'est écoulé, la durée, depuis une origine qu'on a fixée arbitrairement. Donc ce sont deux choses très très différentes. Et vous allez voir, je pense que Marc aura beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, à quel point c'est différent en fait quand on rentre dans les détails de cette chose-là. Donc mesurer le temps pour nous, c'est voir passer une horloge, voir passer l'aiguille d'une horloge, et puis voilà, l'horloge a fait un quart de tour, il s'est passé 3 heures, des choses comme ceci. C'est toujours une durée, hein. Je pense que tout le monde en est convaincu que dans les faits, ce sont des durées que l'on mesure. S'il y a une question, c'est le moment, puisque c'est le sens du genre d'action que nous faisons, en ce moment. Pas de questions?
Non, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Donc finalement, ce qu'on appelle une montre, une horloge, une pendule ou tout autre instrument qui est destiné à mesurer le temps, entre guillemets, en fait, c'est une version d'un chronomètre, c'est-à-dire qui mesure des durées. Et une horloge, donc, ne mesure pas le temps, mais mesure une durée, et plus précisément, mesure la durée de sa propre histoire. C'est-à-dire, l'horloge mesure la durée qui s'est écoulée pour elle, et ça c'est important de le dire, vous verrez pourquoi. Donc l'horloge mesure la durée qui s'est écoulée pour elle, entre le moment où on l'a mise à l'heure, disons, et puis le moment où on la consulte. Donc elle mesure une durée. Et tout instrument, comme Gilles l'a dit, mesure une durée. Et finalement, quand on essaye d'analyser la notion de temps, c'est quelque chose que l'on reconstitue à partir des durées. Par exemple, si je dis il est midi, et puis qu'ensuite, entre ce moment où il est midi et plus tard, je vois que mon horloge a mesuré une durée de 4 heures, je vais dire il est 16 heures. C'est absolument simple. Et ce qui permet finalement cette reconstitution du temps à partir des durées, c'est que si on a plusieurs horloges, eh bien, elles indiquent toutes la même durée. Donc c'est facile, puisqu'elles indiquent toutes 4 heures, on va dire, il s'est écoulé 4 heures de temps, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie courante, et c'est pour ça qu'on parle du temps. Sauf que ce que nous a montré la physique, en fait, les expériences et les observations physiques, c'est que entre deux événements, toutes les horloges n'indiquent pas la même durée. Alors vous allez me dire, c'est contraire à ce qu'on observe. Mais tout simplement parce que nous, on observe les horloges avec une précision très limitée. Mais par exemple, j'étais là hier à la même heure, et pour moi, s'est écoulée une durée de 24 heures. Mais vous, vous avez été peut-être à des endroits différents, vous êtes déplacé, et donc pour chacun de nous, s'est écoulée une durée différente. Ça va être 24 heures plus ou moins une microseconde ou quelques microsecondes. Sauf que, évidemment, on n'a jamais besoin dans la vie courante d'une précision de microsecondes. Donc, bien que les durées qui soient écoulées depuis le dernier moment où on s'est vu jusqu'à maintenant soient différentes pour nous tous, dans la pratique, c'est comme si elles étaient égales. Donc, comme c'est comme si elles étaient égales, on peut reconstituer cette notion de temps. Mais dès qu'on a affaire à des mesures précises, ça ne marche plus. C'est-à-dire que si on voulait dire, si on voulait avoir une précision meilleure qu'une petite fraction de seconde, eh bien on ne pourrait pas dire, on ne pourrait pas donner une heure. On ne pourrait pas dire aujourd'hui, il est par exemple, je ne sais pas, à 15 heures, parce que pour les uns, ce serait écoulé 24 heures, mais pour d'autres, 24 heures plus une petite fraction de seconde ou moins une petite fraction de seconde, donc ça ne marcherait pas. Et quand on a affaire à des objets qui se déplacent très rapidement, comme des particules élémentaires dans les accélérateurs, comme les rayons cosmiques, ou quand on a affaire à des sondes spatiales dans l'espace, ou à tout ce qui est en astrophysique, les étoiles, les galaxies, etc. Et là, même sans avoir besoin d'une grande précision, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Et finalement, à la charnière du 19e et du 20e siècle, c'est de ceci que s'est aperçu Einstein et qui a été à l'origine de ces théories de la relativité. Parce que quelquefois, on peut lire ou on peut entendre que les théories de la relativité nous disent que le temps n'existe pas. Bon, bien sûr, c'est vrai, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, Einstein a compris à partir des observations et des expériences que le temps n'existe pas, et ensuite il a construit une théorie pour tenir compte du fait que le temps n'existe pas. C'est-à-dire, ce n'est pas la théorie qui dit que le temps n'existe pas, c'est les physiciens qui se sont aperçus par leurs expériences et leurs observations qu'il était impossible de les analyser avec la notion de temps à la manière habituelle. Bien entendu, encore une fois, je répète, lorsqu'on a besoin d'une précision importante. Et donc la théorie de la relativité n'a fait que prendre en compte cette inexistence et même cette impossibilité d'existence du temps. Alors, oui, juste la dernière phrase pour finir, c'est que ça n'empêche pas évidemment que dans la vie courante et dans certaines circonstances et lorsqu'on n'a pas besoin d'une grande précision, on continue évidemment à utiliser une notion de temps. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudra vraiment analyser sa signification puisque d'un autre côté, la physique nous dit que le temps n'existe pas.
Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Simplement pour rassurer nos auditeurs, quand Marc dit que le temps n'existe pas, il met un T majuscule à temps. Il n'y a pas de temps absolu, un temps que tout le monde reconnaîtrait comme le vrai temps, etc., des choses comme ça. Par contre, d'une certaine façon, chacun a son temps et a le droit de considérer que le temps existe, etc. Vous n'êtes pas hors la loi parce que vous pensez que le temps existe. Mais il n'y a pas de temps commun à tout le monde, je pense. On peut encore faire.
Non, mais c'est marrant parce que quand j'ai écrit mon livre, effectivement, j'avais eu une discussion avec mon éditeur qui m'a dit « tu vas un peu fort en disant « le temps n'existe pas ». Et effectivement, tu devrais écrire « temps » avec un T majuscule pour distinguer le temps, disons, un temps qui s'écoulerait pour tout le monde, du temps avec un petit T qui s'écoule pour chacun de nous. Et on a beaucoup discuté est-ce que c'était opportun ou pas de faire cette distinction. Et on est arrivé à la conclusion que finalement, non. Enfin, c'est une question de goût et de pédagogie parce que vraiment, j'insiste, hein, ce que nous dit la relativité, c'est que le temps, en fait, n'existe pas. On reconstitue chacun un temps qui nous est propre. Et d'ailleurs, on appelle ça un temps propre. Et en fait, ce sont des durées propres. Mais ces durées propres ne coïncident pas. Et donc, on ne peut pas, à partir de tout ça, reconstituer quelque chose qui est les propriétés du temps. Et ce que je veux dire, d'une manière un peu concrète, qui va vraiment être le signe que le temps n'existe pas, enfin un des signes que le temps n'existe pas, et qui a également été remarqué par Einstein, c'est que la notion de simultanéité n'existe pas. Alors, c'est assez facile de voir que normalement, la notion de simultanéité découle de celle de temps. Parce qu'on va dire, deux événements sont simultanés s'ils ont la même valeur du temps, s'ils ont la même date. C'est très simple. Donc, si on s'aperçoit que la simultanéité n'existe pas, ça veut dire que le temps n'existe pas. Et ce dont s'est aperçu Einstein, c'était absolument impossible de décider si deux événements sont simultanés, ou plus exactement, ce dont il s'est aperçu, c'est que si l'on a deux événements qui se déroulent, des événements bien définis, par exemple une étoile qui explose quelque part dans l'univers, qu'on peut observer comme ce qu'on appelle une supernova, et puis d'un autre côté, on va dire une comète qui s'écrase sur une planète, comme on a pu le voir sur la planète Jupiter il y a quelques années. Bon, ça, c'est deux événements bien précis. Et on peut se poser la question, est-ce que ces deux événements sont simultanés, ou est-ce qu'il y en a un qui s'est déroulé avant l'autre, ou l'inverse ? Donc c'est une question qui semble une question bien précise, à laquelle on puisse apporter une réponse. Et bien, ce qu'a montré Einstein, c'est que selon qu'on se pose cette question et que l'on cherche à y répondre d'une manière ou d'une autre, eh bien, par exemple, je vais faire mes mesures, mes observations, et je vais dire, bah oui, la supernova et la comète se sont déroulées en même temps. Et puis mon voisin va faire le même genre d'observation et de raisonnement, il va dire, bah non, la supernova a explosé avant la comète.
Parce que moi, je courais autour de l'acropole.
Voilà, par exemple. Et un autre collègue va dire, bah non, c'est la comète qui s'est déroulée, qui est rentrée en collision avant l'explosion de la supernova. Donc on a des réponses contradictoires. Qui a raison ? Eh bien, il est impossible de dire que l'un a plus raison que l'autre. C'est-à-dire, si on se pose la question quel est l'événement qui s'est déroulé avant l'autre, on a trois réponses contradictoires qui sont aussi légitimes l'une que l'autre. Et ce que conclut Einstein, c'est que finalement, une question qui a des réponses contradictoires ne peut pas avoir de sens. Et donc la notion même de simultanéité n'a pas de sens. C'est comme ça que toute l'histoire de la relativité a commencé. Einstein s'est aperçu le premier que la notion de simultanéité n'avait pas de sens, et donc la notion de temps n'avait pas de sens. Et finalement, quand on essaye de comprendre pourquoi, c'est justement parce qu'on ne peut pas arriver à mettre en accord les durées des différents objets, des différents observateurs entre deux événements. Encore une fois, tout ça, ça n'a de pertinence que lorsqu'on s'intéresse à des observations ou à des expériences assez précises. Mais ce que nous dit la physique, c'est absolument sans ambiguïté, parce que ces affirmations qui semblent un peu déroutantes, bah depuis un siècle, on peut dire que chaque jour, elles ont été confirmées des millions et des millions de fois par les observations des particules, les observations en astronomie, les observations, les télécommunications spatiales, etc.
Ah oui, le micro a décidé. Pour me tourner un petit peu vers Gilles, donc tu es retraité de l'Observatoire de Lyon. Comment, très, très simplement, on a tendance à connaître, mais on est vraiment là sur une question de vulgarisation, de reprendre des notions très simples, hein, sur ce que vous faites très bien depuis le début. Cette notion de temps en astrophysique, on sait que c'est très loin, que les choses qu'envoie une lumière, elle est très loin, etc. Si tu peux revenir un peu là-dessus, ça pourrait être très intéressant.
Donc, les astronomes observent les objets qui sont dans le ciel. Il y a deux sortes d'objets qui sont dans le ciel et qui sont observables. Les objets du système solaire, là c'est très particulier parce que les objets du système solaire, en y mettant le prix, on peut aller voir sur place. On peut s'y poser, on peut faire des mesures, des choses comme ceci. Ça c'est une partie très particulière de l'astronomie qui est très liée à la géologie, à des choses comme ceci, comme vous l'imaginez. Et puis il y a tous les objets extérieurs au-delà du système solaire qui sont pour l'instant inaccessibles, qui vont le rester encore longtemps, je pense. Enfin, je regarde le spécialiste du voyage dans le temps qui nous trouvera des solutions certainement, mais ce n'est pas pour demain ce genre de choses. Donc les objets de l'extérieur, on ne peut les étudier qu'en étudiant ce qu'ils nous envoient. Et qu'est-ce qu'ils nous envoient ? Du rayonnement électromagnétique, pour parler savant, et en clair de la lumière, pour parler du rayonnement le plus connu et celui que vous pouvez voir avec vos yeux. Donc on observe l'univers à travers la lumière qu'il nous envoie essentiellement, d'autres rayonnements aussi, mais enfin parlons de la lumière pour l'instant. Et on étudie le fonctionnement de l'univers. Étudier le fonctionnement de l'univers, c'est essentiellement utiliser les variations qui se produisent dans les configurations de l'univers. Marc aura peut-être à redire aussi au moment où on parla des objets, des choses très très lointaines, mais pour l'instant on reste dans les choses des galaxies lointaines qui sont à quelques dizaines ou centaines de millions d'années-lumière, des choses comme ceci, jusqu'à quelques milliards d'années-lumière, des objets comme ceci. Donc ça, on s'étudie aux variations de ces choses-là. Pour l'astronome de base, comme moi, l'univers, c'est quelque chose qui change sans arrêt, et le problème, c'est d'étudier ces variations. Il change sans arrêt, et pour nous, naïfs que nous sommes, c'est au cours du temps. Donc, je ne vous cache pas que quand un spécialiste du temps vient nous dire « mais le temps, ça n'existe pas », on lui dit « d'accord, mais je ne veux pas perdre mon travail parce qu'on me dit que le temps n'existe pas », alors que moi, j'étudie les variations de l'univers dans le temps. Donc là, il y a une difficulté très très profonde, je le dis de façon simple, comme ça, et naïve, il y a une difficulté très très profonde avec la nature du temps, indiscutablement. Donc les objets, pour nous, de l'univers, changent sans cesse. Vous allez voir tout à l'heure qu'on peut prendre une vision où ils ne changent pas sans cesse. Donc le temps s'introduit pour nous dans toutes les observations des objets extérieurs, dont on observe leur rayonnement, on étudie leurs variations au cours du temps. Donc le temps, il est tout le temps là. Par contre, il n'est pas là sous la forme petit t dans des équations en général. Il est là sous des formes un petit peu masquées. Ceux qui s'intéressent à l'astronomie savent que quand on observe des objets lointains, on a des problèmes avec leur distance, par exemple. On a des problèmes avec leur distance parce que c'est encore une séquelle de la relativité et de la structure de l'espace, dont nous parlera aussi Marc tout à l'heure, je pense. Il y a plusieurs définitions concurrentes de la distance. Pour vous prendre un exemple simple, alors pour revenir à la vulgarisation dure, si vous prenez une voiture qui circule sur la route, si c'est une voiture que vous connaissiez très bien, vous avez pris toutes les dimensions, vous connaissez la puissance, l'éclairement produit par ces phares, etc., la puissance utilisée pour les phares. Si c'est la nuit, vous regardez la voiture qui circule, vous voyez ces phares qui ont un certain éclat, vous le comparez à l'éclat de la même voiture garée juste devant vous, et vous êtes capable, avec des formules mathématiques pas très compliquées, de calculer la distance en vous occupant simplement de l'affaiblissement apparent des phares de la voiture quand elle est partie très loin. Je pense que même si vous ne connaissez pas les équations, ce qui n'a aucune importance, on comprend conceptuellement qu'on puisse effectivement recalculer la distance à partir de l'affaiblissement des phares. Ça, c'est la distance de luminosité. Ça s'appelle comme ça en astronomie. Vous pouvez aussi, si c'est la journée, mesurer la taille apparente de la voiture, ce qui équivaut à mesurer un angle, mais enfin, peu importe, et la comparer à la taille réelle de la voiture que vous connaissez, puisque vous l'avez mesurée avant qu'elle parte. Et vous comprenez bien qu'on peut comparer ces deux choses, et avec des considérations géométriques simples, eh bien en déduire la distance de la voiture. Ça vous donne une autre distance, qui est la distance angulaire. Angulaire parce qu'on mesure avec un angle la taille de la voiture quand elle est loin. Alors ces deux distances, si vous faites ça avec une voiture qui circule sur l'autoroute de jour et de nuit, vous allez trouver les mêmes distances. Les mêmes distances, avec le bémol que nous a indiqué Marc tout à l'heure, les mêmes distances parce qu'on n'a pas fait des mesures extraordinairement précises. Donc on va trouver la même distance, pas de problème. Si vous faites ça avec une galaxie qui est à 1 milliard d'années-lumière, vous allez trouver deux distances totalement différentes. Et aucune n'est plus justifiée que l'autre. Et puis l'autre problème que l'on a, c'est celui qui a été indiqué alors au sujet vraiment du temps cette fois. Quand vous observez un objet à très grande distance, il a fallu le temps que la lumière nous parvienne depuis cet objet. Donc une étoile là-bas dans une galaxie à 3 milliards d'années-lumière émet de la lumière. Cette lumière se dirige dans toutes les directions. Il y a une partie qui vient ici, qui vient jusqu'à nos détecteurs sur Terre. En parlant simplement, c'est pas un très bon raisonnement, mais c'est, tout le monde le comprend quand même. Disons que la lumière semble avoir voyagé pendant 3 milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Donc vous voyez la galaxie telle qu'elle était il y a 3 milliards d'années. Donc toutes les propriétés que vous allez observer sur cette galaxie ne sont pas les propriétés de la galaxie aujourd'hui, mais les propriétés de la galaxie il y a 3 milliards d'années, pour simplifier. Donc les astronomes, tous les jours, sont obligés de tenir compte de ça. Ils tiennent compte de ça comment? Eh bien, grâce aux cosmologistes. Nous avons la chance d'avoir un très bon exemple de cosmologiste ici, qui nous disent, ben voilà, la structure de l'espace, elle est comme ceci, comme cela. Les échelles de distance de luminosité et angulaire varient comme ci et comme ça. Le temps dans la galaxie ce, comment dirais-je, la galaxie dans un environnement qui a telle et telle caractéristique, à cette distance et tout ça. Donc on utilise le temps tout le temps, parce que l'univers, pour nous, il est variable sans arrêt, du point de vue observationnel. Donc on utilise toujours le temps, mais il y a beaucoup de corrections à faire, beaucoup de précautions à prendre pour utiliser le temps, ce qu'on a commencé à voir donc avec les précautions que nous a signalé Marc tout à l'heure. Pour revenir à la simultanéité, vous trouverez très facilement sur Internet l'image que prenait Einstein lui-même pour expliquer que la simultanéité n'était pas quelque chose d'absolu, avec un train et puis deux éclairs, etc. Beaucoup de personnes connaissent sans doute cet exemple. Einstein était quelqu'un d'absolument remarquable. Je vais finir là-dessus. Mathématiquement, il y avait des gens avant lui qui avaient fait aussi bien, voire mieux, qui avaient trouvé des équations extrêmement proches, voire identiques, jusqu'à un certain point, à celles qu'il a trouvées ensuite. Mais Einstein est le premier qui ait compris les concepts qui étaient derrière, qui ait osé faire ce qu'il fallait pour bouleverser la physique. Et il était aussi extrêmement doué. C'est une chose qu'il partageait un peu avec un très grand mathématicien qui s'appelait Poincaré, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est quelqu'un d'extrêmement doué pour faire passer dans le public des idées extrêmement complexes, extrêmement dérangeantes, comme celle de la relativité. Donc Einstein a fait des écrits où on l'a interviewé à certains moments et il a dit des choses tout à fait adaptées à quelqu'un qui n'a pas de culture mathématique particulière. Quoi. Donc pour ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire sur ce plan-là. Bon, c'est tout. C'était juste mon amour pour Einstein.
Pour aller un petit peu dans le même sens et parler de ce temps qui nous sert à repérer les événements cosmiques. Et comme vous avez compris, ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas un temps. On appelle ça le temps, mais c'est pas un temps. C'est-à-dire, c'est une sorte de repérage chronologique. Et je prends un exemple. Supposez que vous intéressiez à la généalogie, et puis vous n'avez pas d'informations sur la généalogie de votre famille, et puis tout d'un coup, vous trouvez un arbre généalogique. Et avec tous vos ascendants, grand-père, arrière-grand-père, etc. Et sur cet arbre généalogique, vous voyez donc, pour chaque personnage qui est dans cet arbre, le nombre de générations qui vous séparent de lui. Donc, ça veut dire que vous pouvez dater d'une certaine manière, entre guillemets, tous les personnages en disant « Ah, celui-ci remonte à 5 générations, à 10 générations ». Donc, ça vous propose, de cette manière, vous avez un repérage chronologique. Mais ça n'est pas le temps, ça n'a pas les propriétés du temps. Par exemple, vous ne savez pas du tout si telle génération correspond à 25 ans ou 35 ans, à quel âge ils ont eu leur... Vous ne le savez pas. Néanmoins, vous avez établi une sorte de repérage chronologique, on pourrait dire chronogénéalogique, on pourrait trouver un mot comme ça. Quand vous faites des fouilles également archéologiques, vous trouvez des objets de plus en plus profonds, et ça veut dire qu'ils sont de plus en plus anciens. Donc vous ne pouvez pas les dater. Maintenant, on arrive un peu, quelquefois, avec le carbone 14, avec une certaine précision, mais avant, on n'y arrivait pas. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire? On va repérer simplement l'éloignement dans le passé de ces objets par la profondeur en millimètres, par exemple, dans laquelle on a trouvé. Voilà, on a un repérage. Et ces repérages, on les appelle des fonctions temporelles. C'est pas du temps, vous comprenez bien, parce que entre la première couche d'un millimètre et la deuxième couche d'un millimètre qui est beaucoup plus profonde, il n'y a pas du tout la même durée qui correspond. Et les durées, on n'y a pas accès. Ben, ce qu'on appelle le temps en astronomie, c'est pareil. Alors, pour être rigoureux, il faudrait dire le temps cosmique. Quand on dit telle galaxie, il lui est arrivé telle chose il y a 3 milliards d'années, on utilise une espèce de fonction de repérage, comme ça, que par commodité on appelle le temps, mais qui n'est pas du tout un temps. Ça veut dire quoi que c'est pas un temps? Ça veut dire, par exemple, si on a deux phénomènes, comme ce que je disais tout à l'heure, qui se sont déroulés à la même valeur du temps cosmique, eh bien, ils ne sont pas simultanés. Ils peuvent l'être quelquefois, par hasard, mais en général, ils ne sont pas simultanés. Ça veut dire que si vous avez un phénomène, par exemple la vie d'une étoile, qui s'est déroulée entre une valeur, je ne sais pas moi, 10 milliards, 11 milliards et 10 milliards du temps cosmique, ça ne veut pas du tout dire que cette étoile a vécu pendant un milliard d'années. Elle a pu vivre 3 milliards d'années ou 300 millions d'années. Donc ce qu'on appelle le temps par commodité, c'est quelque chose qui nous sert à repérer les événements cosmiques, mais qui n'a pas du tout
les caractéristiques de ce qu'on appelle le temps. Et d'ailleurs, en cosmologie, alors, quand on fait de la vulgarisation, effectivement, on a toujours tendance à utiliser le temps cosmique, parce que c'est bien, et même qu'on appelle le temps, donc on va dire, cette galaxie, elle, ce qui lui est arrivé, elle s'est formée il y a, par exemple, 10 milliards d'années. Bon, c'est commode de dire ça, mais ça ne correspond à rien de physique. C'est juste une sorte de repérage. Et d'ailleurs, on aurait beaucoup de mal à trouver une méthode qui nous permette de dire quelle est la durée, puisque la durée, ça, ça a un sens, mais on ne peut pas la mesurer, on n'a aucun moyen de la connaître. Donc une galaxie qui s'est formée il y a 10 milliards d'années, on voudrait se demander quelle est la durée qui s'est écoulée pour cette galaxie depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Et si on considère, par exemple, une particule qui aurait été émise dans l'univers il y a 13 milliards d'années, c'est-à-dire aux alentours de ce qu'on appelle quelquefois le Big Bang. 13 milliards d'années, c'est beaucoup. Une particule, on peut se demander quelle est la durée qui s'est écoulée pour cette particule qui a été émise, qui a été créée il y a 13 milliards d'années, mesurée en temps cosmique, jusqu'à aujourd'hui. Et bien, il se peut très bien que cette particule ait eu une histoire telle que pour elle, s'est déroulé un mois de durée. Cette particule a vécu un mois, et pourtant elle a été créée il y a 13 milliards d'années. C'est pas du tout contradictoire, c'est quelque chose qui illustre, je crois, vraiment de manière pertinente, le fait que ce qu'on appelle temps cosmique, ce qu'on appelle temps par raccourci, c'est pas du tout un temps, mais c'est très pratique, ça nous sert à repérer les choses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on utilise le temps cosmique dans les livres de vulgarisation, dans les discours de vulgarisation, mais que quand on fait des calculs en cosmologie, on n'utilise jamais le temps cosmique. C'est pas du tout quelque chose qui est pratique et qui est utilisable. On utilise d'autres fonctions temporelles, hein, puisqu'on appelle ça d'autres systèmes de repérage. Et par exemple, quand on veut repérer l'évolution d'un système, si le temps n'existe pas, comment on va faire ? Parce que quand on voit quelque chose qui évolue, on va dire bah, ça évolue, pendant une seconde, ça a évolué comme ça, puis au bout d'une seconde, il y a eu l'évolution qui a été plus rapide ou plus lente, etc. Donc on a l'habitude de repérer avec le temps. Et dans notre vie courante, ça marche très très bien. Mais si le temps n'existe pas, comment on va repérer les phénomènes ? Eh bien, on va repérer les phénomènes les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, on va prendre une sorte de phénomène de référence, et puis on va mesurer l'évolution d'un autre système qui nous intéresse par rapport à l'évolution du premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme système de référence ? Ben, on en a un qui est très pratique, c'est l'univers entier. Parce que vous savez que l'univers est en expansion. Et l'univers, on peut dire, ben, depuis 13 milliards d'années, d'une certaine manière, ses dimensions spatiales augmentent sans arrêt. Donc on peut utiliser ça comme sorte de repère chronologique. C'est-à-dire on peut prendre la dimension caractéristique de l'univers. En cosmologie, on appelle ça le rayon d'échelle. Donc finalement, c'est une sorte de temps. C'est aussi justifié que le temps cosmique et c'est même beaucoup plus pratique dans les calculs. Et la plupart des cosmologues utilisent ceci qu'il a encore moins à voir avec le temps, à tel point qu'on l'appelle même jamais le temps, mais c'est quelque chose qui permet de repérer aussi bien que le temps, par exemple, cette espèce de repérage chrono-généalogique dont je vous parlais tout à l'heure, ou la profondeur des strates dans une fouille, disons, archéologique. Donc voilà, on trouve des astuces, c'est-à-dire on utilise l'univers lui-même comme si c'était une espèce d'horloge. Et au lieu d'avoir des battements de l'horloge, ce qui va marquer toutes les étapes, ce n'est pas le tic-tac de l'horloge, mais c'est chaque fois que, par exemple, la taille de l'univers a doublé. Et depuis 13 milliards d'années, elle a doublé, je ne sais pas combien de fois, il faudrait calculer, mais peut-être un million, un milliard de fois. Donc ça nous donne un repérage temporel qui n'a pas davantage les caractéristiques d'un temps, mais qui a au moins l'avantage d'être quelque chose de concret, de bien défini. Et c'est une sorte d'horloge. Et finalement, quand on a introduit le temps dans l'astrophysique, parce que c'est un petit peu finalement le sujet de ce débat, ben c'est ça qu'on a fait. Quand on a essayé de définir la seconde, on a pris un phénomène astronomique, lequel ben on a pris par exemple la rotation de la Terre sur elle-même. Et puis on dit, on va diviser ça, et puis on va dire une seconde, c'est un 3600e de un 24e d'une rotation de la Terre sur elle-même. Ou alors, on va dire, c'est une fraction du temps que met la Terre pour faire son orbite autour du Soleil. Bon, très bien. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, les deux ne coïncidaient pas. Pourquoi ? Parce que les orbites se modifient un petit peu avec le temps. Donc, on a choisi de prendre une autre définition avec le temps atomique. Mais finalement, c'est un choix complètement arbitraire de prendre une unité de temps. on pourrait prendre... Alors, on dit, la seconde, finalement, elle ne varie pas. Mais de toute façon, par rapport à quoi pourrait-elle varier? Donc, dire que la seconde, notre unité de temps, varie ou qu'elle ne varie pas, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas d'autre unité de temps par rapport à laquelle on pourrait la comparer. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les différents temps, entre guillemets, que l'on peut définir, ne vont jamais coïncider les uns avec les autres. Puisqu'il n'y a pas de temps absolu qui s'écoule, il y a chaque fois, pour chaque type d'objet, il y a un temps propre à lui qui s'écoule. Donc on en choisit un, par commodité, et puis on va dire, bah, c'est ça qu'on va utiliser, par exemple, dans la vie courante, et on va définir comme ça le temps universel. Qu'est-ce que c'est que le temps universel? Ça serait le temps qui serait marqué par une horloge particulière. Qu'est-ce que c'est cette horloge? Par convention, on va dire, c'est un atome de césium qui serait au repos sur la Terre. Bon, très bien, voilà la définition du temps universel. La seconde, c'est une certaine fraction plutôt le battement d'un atome de césium, son oscillation, c'est une certaine fraction de la seconde, et c'est la définition que nous avons de la seconde. Bon, maintenant, on va utiliser ça comme référence. Et quand on a des horloges atomiques, c'est exactement ça, là-dedans, il y a des atomes de césium et qui servent de référence. Le problème, c'est que quand on a une horloge atomique avec des atomes de césium, ces fameux atomes, ils ne sont jamais au repos. Ils bougent un petit peu, parce que tout bouge dans la nature, les atomes. Donc finalement, quand on cherche à utiliser un atome de césium dans une horloge atomique, ce n'est pas exactement la définition du temps, parce que la définition de temps, c'est ce qui est donné par un atome de césium au repos. Or, un atome de césium en mouvement, dans une horloge atomique, même si l'horloge est refroidie comme on le fait, eh ben, il ne donne pas exactement les mêmes durées qu'un atome qui serait au repos. C'est pour ça qu'on a toujours une précision limitée dans les horloges. Et ce n'est pas une précision limitée, finalement, parce qu'on fait des erreurs ou quelque chose comme ça. C'est fondamentalement, on atteint les limites de ce qu'on peut définir de plus proche de quelque chose qui serait un temps universel. Donc on a cru pendant longtemps que le temps universel existait dans la physique, et c'est Newton qui l'a introduit de cette manière-là. Mais on s'est aperçu petit à petit que c'était une sorte d'idéalisation. Et cette idéalisation, on peut l'utiliser dans la vie courante, encore une fois, ou quand on n'a pas besoin d'une grande précision. Mais dès qu'on a besoin d'une précision importante, ça ne marche plus.
C'est juste une petite précision modeste en passant. Quand Marc parle de dimension caractéristique de l'univers, n'allez pas croire que c'est le diamètre, d'une façon ou d'une autre, de l'univers. C'est dans les équations, il y a un R de T qui caractérise la façon dont l'univers est dilaté, en quelque sorte. Donc c'est pas une constante, c'est une fonction du temps. Pardon, le temps n'existe pas, mais c'est une fonction du temps quand même. Une fonction du temps, donc, qui varie au cours de l'expansion de l'univers, c'est tout.
Mais on peut lui donner un sens concret. On peut dire, par exemple, c'est la séparation moyenne entre deux galaxies dans l'univers. Puisque ça augmente précisément en suivant la loi d'expansion, c'est même la définition. Et c'est concret, c'est une horloge. Ça veut dire qu'on choisit comme horloge la séparation moyenne entre galaxies dans l'univers.
Alors pour, toujours pareil, pour regonfler un peu votre morale, pour penser qu'il y a quand même des choses sur lesquelles, un sol sur lequel on peut y marcher, les astronomes utilisent par exemple les explosions d'étoiles dont on a parlé tout à l'heure, les supernovées, certaines étoiles à la fin de leur vie finissent en explosant. Le terme d'explosion n'est pas parfait, mais enfin, tout le monde comprend un peu ce que c'est ça. Une supernova, ça monte très très vite. Or, très vite, remarquez que quand je dis très vite, ça suppose qu'on a une notion de temps.
De durée, oui, pardon.
Mais le temps, pour moi, c'est la durée. Que ce soit entendu une fois pour toutes. Donc, on a une notion de durée. Donc, ça monte très très vite, et puis ça redescend. Comme en général, on n'arrive pas à attraper les supernovées, elles nous surprennent toujours. On ne s'attend pas à ce qu'une étoile devienne supernovée quand elle est dans une galaxie lointaine. D'abord, on ne sait même pas que l'étoile existe avant qu'elle devienne une supernova. Donc, en général, on n'arrive pas à être certain qu'on a eu le maximum absolu. Donc, ce qu'on fait, alors les premières phases sont extrêmement, extrêmement brèves. C'est de l'ordre de la minute au début, d'heures, des choses comme ça. Donc, ça monte très très vite. Puis après, ça descend comme ça tranquillement. Donc, ce qu'on a choisi pour certaines études, on a choisi la luminosité un mois après le maximum. Et ces supernovées, elles sont à n'importe quelle distance. Donc, il faut être capable de dire, cette supernova, il y a un mois dans son temps propre à elle, sur place. Parce que la physique qui joue, c'est celle avec le temps de local. Hein. Donc cette supernova, ça fait un mois qu'elle est passée à son maximum, je prends son éclat et je m'en sers dans la courbe que je veux faire. Donc, il n'y a pas de temps avec un grand T, il n'empêche qu'on a des tas de temps, on peut définir des tas de temps, et il y en a un qui est bien pratique justement pour évaluer les durées localement de chaque objet comme ça. On est capable, juste pour vous dire que la situation n'est pas désespérée, on est capable d'évaluer ici, à 100 années-lumière, à 10 000 années-lumière, que les choses se sont passées en un mois de la Terre, en un mois classique. Mais non, tout ça pour dire que on arrive à s'en sortir. Mais je pense que Marc vous a bien montré que c'était extrêmement complexe en fait, que tout changeait en fait quand on se déplaçait, en particulier sur cette définition du temps. Bon.
Je pensais que Marc, oui, non, tu étais parti pour rebondir sur ces questions de supernova.
Si vous voulez, oui, mais...
Ou sinon, j'avais prévu, vu qu'on a prévu de finir vers 30-40 à peu près, donner peut-être la parole, parce que vu qu'on est là pour que... C'est une rencontre, hein, c'est pas une table ronde, donc c'est une super introduction. Si vous avez des questions, vous avez deux personnes, comme vous avez pu le voir, passionnantes, et c'est le moment de les poser. Alors, je vais pas pouvoir venir vers le micro avec toi, on parle fort, je suis désolé, Didier.
J'avais lu quelque part, je ne me souviens plus où, qu'en fait on pouvait essayer grossièrement de définir le temps comme étant une propriété émergente d'une direction entre plusieurs choses. Il y a l'espace, s'il y a un niveau subatomique ou de dénouement, l'espace rien, et le temps n'existe pas. Et par contre, s'il se passe beaucoup de choses, dans mon corps, il y a beaucoup de magnésium, beaucoup de chimiques formidables. Donc le temps se passe pour moi parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Est-ce que ce ne serait pas une manière simple, même grossière, de définir le temps? C'est-à-dire le temps, c'est en fait émergent d'une interaction. Même, est-ce que ça ne pourrait même pas éventuellement s'appliquer à la théorie des quantas que personne ne sait connaître? En fait, même certaines personnes qui ont parlé de certains phénomènes de l'état quantum à distance, par exemple, la théorie du quantum, c'est vraiment, c'est pas du niveau de cette salle, mais si deux particules attaquées, elles n'interagissent pas avec d'autres choses, en fait, peut-être que justement, elles sont en dehors du temps.
Je pense que si c'est la question, c'est pas.
Est-ce que la question la plus simple, c'est est-ce que cette manière grossière de définir le temps, est-ce que. Est-ce que vous pouvez réagir?
Moi, je commence.
Je dirai un mot parce que je ne peux pas m'empêcher de dire un mot, mais le spécialiste, c'est Marc. Je voulais déborder après sur les rêveries de physique actuelle.
Oui, mais moi, je vais parler de rêveries de physique actuelle parce qu'effectivement, ce sont des voies qui sont très étudiées en ce moment parce qu'on cherche un peu à trouver une nouvelle physique quoi, qui irait un peu au-delà de la physique quantique et de la relativité. Et cette idée que vous proposez, elle est appliquée, je dirais, de deux manières. D'une première manière à l'univers lui-même et d'une autre manière au système microscopique. Parce qu'aujourd'hui, donc, bon, vous avez tous compris qu'il n'y a pas de notion de temps, mais il y a quand même une notion de durée. C'est-à-dire chaque histoire de n'importe quelle particule, de n'importe quel système, de n'importe quel observateur, personnage, etc., a une durée. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. C'est une durée qu'on peut toujours mesurer avec un chronomètre, une horloge. Et si c'est nous, c'est la durée qu'on ressent quand on dit j'ai fait quelque chose pendant une heure ou pendant une journée ou pendant une seconde. Ça correspond à peu près à la durée que mesure notre montre. Donc ces notions de durée sont toujours très bien définies, il n'y a aucun problème. Et la question c'est, si l'on veut trouver une théorie encore plus fondamentale, il y a beaucoup de physiciens qui pensent que même cette notion de durée, il faut peut-être la remettre en cause et penser que de la même manière qu'on a supprimé le temps et qu'on a gardé la durée, peut-être qu'il faudrait aller encore plus loin et supprimer la notion de durée. Donc ce qui pourrait être émergent, c'est pas vraiment le temps, mais c'est plutôt la notion de durée. Et c'est à ce propos-là qu'on se pose des questions. Alors, pour mettre en pratique ces choses-là, il y a certains modèles qui s'appellent des modèles, par exemple, de réseaux causaux, mais il y en a d'autres, Mais je vais prendre cet exemple. C'est-à-dire qu'on va imaginer que ce qui compte dans l'univers, ce n'est pas l'espace, le temps ou l'espace-temps, tout ça, a priori, au début, ça n'existe pas. Et ce qui existe, c'est les événements. Il y a des événements. Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Bah, c'est par exemple une particule qui rentre dans une autre particule, ou bien une particule qui émet un photon, ou bien au contraire une particule, peut-être d'un atome de maréthine, qui reçoit un photon. Enfin voilà, il y a des tas d'événements possibles. On va parler d'événements élémentaires. Bon, il y a des événements élémentaires, et ce qu'on peut se dire, c'est que ces événements, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de chronologie, mais il y a quand même ce qu'on appelle une causalité. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un événement qui est un atome qui va émettre un photon de la lumière et que cette lumière va ensuite arriver sur une molécule, par exemple de maréthine, ce qui correspond à ce qu'on appelle le processus d'observation. Quand j'observe un atome, c'est bien que l'atome a envoyé de la lumière qui va arriver sur maréthine. Et donc, il y a un lien de causalité entre les deux. Et ça, c'est fondamental parce que la plupart de ce qu'on fait en physique, c'est identifier des liens de causalité. Si ce phénomène a eu lieu, c'est parce qu'il avait une cause, et ce phénomène va avoir des effets. Donc causalité, cause-effet, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il existe aujourd'hui des modèles, des sortes de tentatives de construire des nouvelles théories, en oubliant toutes les notions, temps, durée, etc., et en considérant comme fondamentale la notion de causalité. Et évidemment, dans la vie courante, les notions de durée, elles sont là. Même la notion de temps, d'une certaine manière, elle est là, au moins approximativement. Donc la question, c'est, est-ce que, en supposant que la seule notion fondamentale qui existe vraiment, c'est, de manière objective, c'est cette notion de causalité, est-ce qu'à partir de ça, on arrive à comprendre comment les choses s'organisent de manière à ce qu'on puisse définir des durées et même quelque chose qui ressemble au temps ? Ça, c'est un sujet qui est très actif aujourd'hui. Si vous regardez dans les articles qui sont publiés en physique, ben, vous voyez que chaque semaine au moins, il y a un article sur ce sujet. Donc ça, c'est, je dirais, au niveau global de l'univers lui-même, si vous voulez, les notions de durée dans l'espace-temps seraient simplement le résultat d'une conception ou seraient considérées comme fondamentales uniquement la notion de causalité. Et puis il y a autre chose au niveau microscopique qui rejoint peut-être encore davantage ce que vous avez suggéré, c'est qu'effectivement on s'aperçoit que la question c'est qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe ? Est-ce que le temps passe quand rien ne se passe ? Alors si vous êtes dans la conception newtonienne, absolument, c'est-à-dire même si rien ne se passe, le temps s'écoule de toute façon. Hein, dans les Principia de Newton, dans les fameuses scolies, vous pouvez lire « le temps s'écoule uniformément et puis indépendamment de tout le reste, quoi qu'il arrive ». Donc si rien ne se passe, il n'y a pas de temps. Mais si rien ne se passe, d'un autre côté, vous ne voyez rien changer, et donc vous avez envie de dire quelquefois « il ne se passe rien, le temps ne s'écoule pas ». Bon, les deux choses sont un petit peu contradictoires. Aristote disait « le temps, c'est le nombre du mouvement », donc pour Aristote, d'une certaine manière, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps. Alors comment réconcilier ces deux histoires ? Eh bien, on s'aperçoit que quand il y a du changement que l'on décrit de la manière habituelle dans le temps, en général, les systèmes évoluent en obéissant à une certaine loi, qui est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui augmente qu'on appelle l'entropie. Et donc finalement, comme l'entropie, en général, augmente toujours quand le temps augmente, il y a un lien entre les deux. Donc est-ce que finalement, l'entropie, d'une certaine manière, ça ne pourrait pas être un moyen de repérer l'évolution comparable à celui du temps ? Et il y a une notion, alors c'est pas tout à fait ça la notion qui est travaillée en ce moment, il y a une notion qui s'appelle le temps thermique, et qui en gros, alors c'est, techniquement c'est extrêmement compliqué, mais l'idée elle est quand même assez simple, c'est de dire c'est un processus lui-même, par son évolution, dans la mesure où cette évolution a un certain degré de complexité, c'est ce processus lui-même qui engendre sa propre durée. C'est-à-dire que la durée d'un processus, c'est pas quelque chose qui, comme on le dit aujourd'hui, vient finalement de l'espace-temps, parce que ce qui définit la durée d'une histoire aujourd'hui, dans la théorie, là ça devient un petit peu technique, mais c'est le fait que cette histoire se déroule dans l'espace-temps. Et finalement, l'espace-temps a une certaine propriété qu'on appelle sa métrique, bon je suis désolé, c'est un peu technique, mais finalement, ce qui détermine la durée d'une histoire, c'est le fait que cette histoire se déroule dans l'espace-temps et, d'une certaine manière, ça n'est pas vraiment dit, mais il y a une interaction entre l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire la géométrie de l'univers, et cette histoire, et c'est ça qui lui confère sa durée. Dans l'autre optique qui correspond un peu à ce que vous dites, c'est non, chaque histoire génère d'elle-même sa durée. C'est-à-dire qu'une histoire construit elle-même la notion de durée, construit elle-même la durée de temps. Et la notion de durée et la notion de temps ne vient de rien d'autre que de l'évolution de cette histoire avec la notion de complexité qui est liée à la notion d'entropie, qui est liée, l'entropie c'est quelque chose de thermodynamique, et c'est pour ça qu'on appelle ce temps le temps thermique. Et il se trouve que cette notion de temps thermique qui est donc travaillée aujourd'hui est beaucoup reliée à d'autres questions qu'on travaille en physique qui sont d'une part ce qu'on appelle la gravité quantique, d'autre part quelque chose qui est plutôt mathématique mais qui s'applique à la physique aussi, qui s'appelle la géométrie non commutative d'Alain Cohn et de ses collègues. Bon, donc si vous voulez, il y a tout un courant qui tente d'aller dans le sens que vous dites, c'est-à-dire d'aller encore plus loin dans la remise en question du temps. D'ailleurs, le temps aujourd'hui, bon, c'est acquis qu'il n'existe pas, mais il y a quand même les durées qui sont là. Et pour certaines raisons, qui seraient trop longues d'expliquer ici, on a l'impression qu'il faut aller encore plus loin et remettre même en question la notion de durée. Et dans ce cas-là, si les durées n'existent pas vraiment au niveau fondamental, c'est quelque chose qui est, comme on dit, émergent, et il faut essayer de le comprendre. Mais pour ça, il faut avoir une théorie bien précise dans laquelle il soit possible d'imaginer un processus qui conduirait à l'émergence, non pas du temps, mais des durées, quoi, d'une certaine manière. Bon, c'était un peu long, je suis désolé.
Et tu voulais rajouter quelque chose,
je pense. Oui, je veux rajouter une chose qui a un peu l'aspect d'une danseuse, en l'occurrence. Pour vous donner une idée des domaines dans lesquels on n'hésite pas à chercher aujourd'hui, pas moi, j'en suis bien incapable, mais les gens qui sont dans la physique fondamentale. En 91, il y a quelqu'un qui a travaillé, comme l'a signalé Marc, à chercher la solution du Graal de la physique, marier la mécanique quantique qui s'occupe des tout petits objets et la relativité générale qui s'occupe des très grands objets, l'univers dans son ensemble, etc. Deux théories qui sont parfaitement efficaces dans leurs domaines respectifs, qui n'ont rencontré... La RG n'a pas rencontré de difficultés, je crois.
Peut-être la masse cachée.
La masse cachée, peut-être, oui. La mécanique quantique est extrêmement, énormément de succès aussi. Hein, on s'en sert tous les jours dans n'importe quel appareil électronique, etc. Donc les deux sont indiscutables, mais on sait qu'elles ne se marient pas. Et quand on remonte vers le Big Bang, quand le R2T dont on parlait tout à l'heure devient vraiment très petit, l'univers est tellement dense, en quelque sorte, qu'on tombe dans des états où les phénomènes quantiques doivent être importants. Donc il faudrait marier la relativité générale qui a servi jusqu'à ce point avec la mécanique quantique qui commence à servir aussi à partir de ce point. Ce qu'on dit parfois simplement en disant on voudrait voir ce qui se passe avant le Big Bang, en quelque sorte. Alors avant, qu'est-ce que ça veut dire quand on ne sait pas ce que c'est que le temps? Bon, enfin bon, ça c'est autre chose. Donc, pour vous donner un exemple de recherches qui sont faites, moi, ça m'a sidéré, j'ai adoré ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que Marc nous en dira plus. En 91, un monsieur a travaillé sur un modèle d'univers extraordinairement simplifié, puisque c'était une boîte comme une boîte de soupe, on l'a appelé la boîte de soupe d'ailleurs, avec une paroi qui avait un diamètre infini, une très grande boîte de soupe donc. À l'intérieur de la boîte de soupe, c'est l'univers tel qu'on le voit autour de nous, avec la relativité générale au travail, des supercordes, parce qu'il en avait besoin pour que ça risque de marcher à la fin. Et sur la superficie de la boîte, à l'extérieur, donc une surface, on avait la mécanique quantique qui régnait en maîtresse. Et il a essayé de voir comment évaluer cet univers extraordinaire. Est-ce que les deux théories, il y avait un moyen ou un autre de les faire... se mettre d'accord quand on approchait des limites, en quelque sorte, de la boîte, des choses comme ceci, d'après ce que j'ai compris. Alors c'est très intéressant, parce que ça donne des expériences, là, où on s'est aperçu, en travaillant sur ce domaine, que certains phénomènes quantiques qui se passaient sur la surface modifiaient la structure de l'espace-temps à l'intérieur de la boîte. Alors c'est pas les résultats précis qui comptent, mais c'est le fait qu'un phénomène quantique local puisse modifier la structure de l'espace-temps, et avec certains phénomènes quantiques qui en fait étaient des problèmes, des choses qui étaient liées, alors je ne sais pas si on peut rentrer là-dedans, qui était lié à l'intrication, donc les particules qui en fait sont la même particule située à deux endroits différents, avec des phénomènes d'intrication comme ça. Ils se sont aperçus que quand ils faisaient des paires intriquées sur la surface de cette boîte, ça produisait des structures de l'espace-temps à l'intérieur, et surtout, plus important encore, me semble-t-il, c'est que quand on dégradait progressivement l'intrication des particules, eh bien, la structure de l'espace-temps disparaissait progressivement aussi. Donc ça donne à penser, c'est très provisoire, mais ça donne à penser qu'une façon ou d'une autre, la structure même de l'espace-temps, donc le temps, les dimensions, etc., sont aussi des choses émergentes, peut-être, liées à des phénomènes quantiques. Alors ça, c'est loin d'être applicable à quoi que ce soit. Mais dans le principe, moi j'ai trouvé ça extraordinaire que la structure de l'espace-temps puisse dépendre comme ceci de ces choses-là. Marc m'a dit que les travaux continuaient, donc je pense qu'il en sait beaucoup plus que moi.
C'est-à-dire que comme on cherche à réconcilier donc la relativité générale et la physique quantique qui sont vraiment différentes, c'est-à-dire que quand on dit qu'elles sont différentes, c'est qu'elles impliquent chacune une vision du monde différente et inconciliable. Alors, il y a deux types de tentatives, au moins, il y en a d'autres, mais il y en a qui disent, finalement, la physique quantique n'est qu'un effet un peu compliqué de la relativité générale. Et puis, il y a une autre vision qui dit, non, c'est la relativité générale qui n'est qu'un effet un peu compliqué de la physique quantique. C'est deux tendances différentes, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est très important en physique en général, dont ceci est un exemple, mais c'est ce qu'on appelle la notion de dualité. Et ça veut dire que quand on veut décrire un phénomène, eh bien, on peut avoir plusieurs manières de le décrire qui sont différentes, très différentes, mais finalement équivalentes. Et par exemple, donc il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde une région de l'univers, imaginons qu'elle soit dans une boule, on peut décrire tout ce qui se passe dans la boule. Et avec cette vision qu'on appelle la vision holographique, ce que dit cette vision, c'est que finalement, si on regarde simplement la surface de la boule, eh bien on peut tout décrire avec un langage différent sur la surface de la boule et que les deux descriptions sont équivalentes. C'est-à-dire on a le choix. Soit utiliser la description habituelle où tout est à trois dimensions, soit utiliser la description holographique où on décrit les choses uniquement en regardant ce qui se passe sur les bords, d'une certaine manière. Et il y a d'autres exemples d'holographie qui sont finalement, par exemple, la géométrie. C'est très intéressant, et ça date de Descartes, c'est la géométrie algébrique. Quand vous faites de la géométrie, qu'est-ce que c'est? Vous avez des points, des figures, l'espace, vous dessinez des figures dans l'espace, vous mettez des points sur des droites, vous avez des angles, des cercles, etc. Bon, très bien. Ce que Descartes a montré, c'est qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelle des coordonnées, c'est-à-dire un point, il est représenté par ses coordonnées, et finalement c'est de l'algèbre. Et donc, au lieu de faire de la géométrie, on peut résoudre un problème de géométrie par l'algèbre. Autrement dit, au lieu de faire des raisonnements géométriques comme vous avez certainement tous fait en classe de géométrie, c'est-à-dire se demander par exemple combien de points d'intersection entre une droite et un cercle avec des raisonnements géométriques, on peut tout mettre en équation et ramener ça à un problème algébrique. Et finalement, cette dualité, parce que c'est vraiment le terme technique, c'est ça, c'est-à-dire qu'un problème donné, on peut le considérer soit d'un point de vue algébrique, soit d'un point de vue géométrique. C'est toujours le même problème, mais finalement, c'est des regards différents sur ce problème. Et on s'est aperçu que la physique aussi, bien souvent, on pouvait la regarder soit d'un point de vue géométrique, soit d'un point de vue algébrique. Et ce qui s'est passé, pour des raisons historiques, c'est que quand Einstein a créé la théorie de la relativité, c'est apparu comme une théorie exprimée d'une manière géométrique. Et quand Einstein lui-même et puis ses prédécesseurs ont inventé la physique quantique, c'est apparu plutôt comme une théorie algébrique. Donc on s'est dit, c'est très différent, il y en a une qui est géométrique et l'autre algébrique. Mais depuis, on a beaucoup avancé sur ces notions de dualité et on a compris qu'on pouvait très bien mettre la physique quantique sous une forme géométrique. Et on pouvait très bien mettre aussi la relativité générale sous une forme algébrique. Et puis quand on a une vision géométrique, on peut très bien prendre la vision géométrique à trois dimensions ou la vision géométrique à deux dimensions holographique. Donc, selon Maldacena, ça serait la même chose. Bon, sauf que Maldacena a donné ce fameux exemple il y a une vingtaine d'années. Et depuis, on a essayé de trouver d'autres exemples et ça ne marche pas du tout. Mais c'est une idée, malgré tout, que les gens aiment beaucoup et qu'ils continuent à essayer de défendre et essayer de trouver des nouvelles dualités, essayer de trouver des situations où ce genre de vision duale, finalement, différente, mais d'une certaine manière, chaque vision apporte quelque chose d'original par rapport à l'autre. Donc c'est toujours très fructueux quand on a des dualités. Et beaucoup de physiciens aimeraient bien que cette dualité soit vérifiée d'une manière un peu générale dans la nature. Mais bon, je dirais, on n'est pas arrivé malheureusement à généraliser ce résultat. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui s'obstinent et qui cherchent toujours.
C'est utilisé dans les trous noirs aussi.
Oui, bien sûr, les trous noirs, c'est l'exemple typique. Oui,
alors on s'approche à grands pas, le temps passe vite, comme chaque table ronde. Avec
il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de temps, la durée. C'est temps avec un petit T. Bon, non, avec un grand T, justement. Allez, on se laisse une dernière question, si vous en avez une. Si, juste devant. Je peux tendre le micro, sur coup, tu peux dire tout fort.
Alors, c'était par rapport à hier. Vous m'avez un peu laissé sur ma faim en posant une question et en nous disant d'y réfléchir et de vous donner la réponse aujourd'hui. Mais alors, moi, je n'ai pas trouvé. Attendez, je retrouve. Pourquoi est-ce que je me souviens de ce que j'ai fait hier et pas de ce que j'ai fait demain? Alors, j'y ai réfléchi, mais je n'ai pas trouvé.
C'est en effet un point. Oui, c'est vrai que j'avais noté dans ma tête, c'était une super question. C'est très bien, je pense, pour terminer cette rencontre entre vous. Gilles, Marc, je te laisse commencer, mais Gilles.
Oui, juste pour dire deux mots, ce sera très vite fait, j'ai l'impression.
Je pense que ceci doit être lié à la conception que l'on trouve actuellement chez certains physiciens, avec de très bonnes raisons, bien sûr, ce qu'on appelle l'univers bloc. C'est-à-dire que tout existe de toute éternité, autant que ça ait un sens, ce genre de choses, quoi. Le passé, le présent, le futur, tout ça, ça existe déjà et on se promène là-dedans. Je ne vais pas répondre là-dessus, Marc le fera. Je dis simplement mon point de vue de physicien ordinaire, non spécialiste de ça. C'est une idée qui me gêne énormément. Comme l'a signalé Marc hier dans la discussion, si on suppose ça, que le futur existe déjà, qu'on puisse donc s'en souvenir, ça signifie deux choses. Ou bien le libre arbitre n'existe pas, ou bien le libre arbitre existe, mais ça impose la création instantanée à la demande d'une infinité de multivers derrière qui soient capables d'absorber toutes les possibilités d'évolution en direction du futur. Alors, moi, ça me gêne beaucoup. Je n'étais pas marié avec Monsieur Occam, mais toutes les fois que dans une théorie physique, on rajoute des boutons et on tourne les boutons et on rajoute des trucs et des machins pour que ça marche, ça me gêne toujours un peu. Donc, qu'on rajoute comme ça une foule de multivers derrière, simplement pour faire passer le fait que le présent, le passé et le futur existent tout le temps, je sais qu'il y a d'autres raisons, mais c'est une chose qui me gêne beaucoup. Surtout que des multivers, pour ceux qui s'intéressent un peu à la chose, on en crée déjà toute une pagassée, comme on dit, à la fin de l'inflation, pour expliquer différentes choses dans notre univers d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes, hein, ce n'est pas le même niveau de multivers, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui semblent un peu ad hoc, ça me gêne. Ce qui me gêne peut-être le plus, mais c'est pas bien, là, il faudrait discuter avec des philosophes, c'est que des hypothèses comme celle-ci, le futur existe déjà, si on élimine les multivers, donc pas de libre arbitre, et ça je sais trop bien que c'est une chose qui est attendue comme le Messie, par tous les révisionnistes américains, et c'est beaucoup aux États-Unis que ce genre d'idée a beaucoup de succès, que le futur existe déjà, etc. Donc c'est une chose qui me semble partir, c'est mon point de vue, un peu vers la métaphysique. Et pour moi, la métaphysique, c'est la religion avec une fausse moustache. Donc ça me gêne toujours quand on vient expliquer de la physique avec des choses qui ressemblent un peu à de la métaphysique ou à de la religion. J'ai rien contre la religion, mais je pense simplement qu'elle n'a rien à faire dans l'explication des phénomènes physiques. Mais c'est un point de vue personnel, bien entendu. Donc voilà, que le futur existe déjà, ça me gêne beaucoup à cause de ça. Mais c'est naïf, bien sûr.
Bon, Je ne vais pas être tout à fait d'accord, je crois. Bon, il y a une chose au moins sur laquelle on est d'accord, c'est que moi, je récuse totalement la notion de multivers. Alors, on n'a peut-être pas le temps d'en discuter, ce n'est pas vraiment le sujet, mais donc, pour moi, pas de multivers du tout. Mais en revanche, je suis plutôt pour l'univers bloc, je dirais plutôt par défaut. C'est-à-dire que je ne vois aucune... Si on se demande qu'est-ce qui existe, quels sont les événements qui existent, bon, ça ne peut pas être les événements présents, parce que le présent, ça n'est pas défini. C'est-à-dire, si on disait ça, ça voudrait dire qu'un événement qui, pour moi, est simultané à moi, mais pas à toi, ça veut dire qu'il existe pour moi, mais il n'existe pas pour toi. Donc on ne serait pas du tout d'accord sur la notion de ce qui existe et ce qui est réel. Donc, simplement, ou pour le dire d'une manière plus simple, on ne peut pas dire « existe ce qui est présent » parce que la notion de présent ne peut pas exister en relativité. Alors, si on dit ce qui existe, c'est seulement ce qui est passé, ça pose un problème aussi, me semble-t-il, parce que les notions de passé ne coïncident pas non plus pour nous tous. Alors, ça sera un petit peu... Donc, finalement, on n'est pas d'accord sur ce qui existe. Et la seule manière d'échapper au paradoxe logique, c'est de tout mettre sur le même plan. Parce que finalement, ce qui est dans le futur pour moi peut être dans le passé pour toi. Donc, si on veut être d'accord sur ce qui existe, c'est-à-dire si on veut avoir une notion un peu objective d'existence, on ne peut pas distinguer le passé dans le futur. Donc, on est obligé de dire tout est sur le même plan, tout existe. Donc, je ne vois pas... C'est pas que je sois forcément d'accord avec la position d'univers bloc, mais pour moi, je n'en vois pas d'autre qui soit logiquement cohérente. Mais pour répondre peut-être encore plus directement à la question, je reviens à mon petit chéri, là, Victor Hugo, dont je parle quelquefois. Et si j'imagine trois événements de la vie de Victor Hugo, un événement à 20 ans, un événement à 30 ans, un événement à 40 ans. Bon, bah pour moi, c'est trois événements de la vie de Victor Hugo qui finalement ont un statut à peu près équivalent. Ils se sont produits dans un certain ordre, mais je m'en fiche. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand Victor Hugo avait 30 ans, il se souvenait de l'événement de 20 ans, mais pas de suite 40 ans. Alors que pourtant, quand on regarde avec un petit peu de recul, ils ont exactement le même statut. Donc ça n'est que pour Victor Hugo, et encore à un moment précis de sa vie, que l'événement 20 ans et l'événement 40 ans ont un statut différent. Ça n'est que pour Victor Hugo à 30 ans qu'ils ont un statut différent. Mais pour Victor Hugo à 50 ans, ils ont le même statut. Pour n'importe qui regarde la vie de Victor Hugo d'une manière un peu globale, ils ont le même statut. Donc je dirais, le fait qu'on distingue un événement, on appelle un événement passé et un événement futur, c'est quelque chose qui est complètement anecdotique, qui est lié à moi-même, à la manière dont je vois les choses, et à un instant particulier. Et finalement... On retombe sur la question, effectivement, pourquoi je me souviens de ce que j'ai fait hier et je ne me souviens pas de ce que je vais faire demain. Du point de vue de la physique, ça a exactement le même statut. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et on pourrait très bien imaginer... Ben, il y a un bouquin de... Comment il s'appelle Amis, le fils de Kingsley Amis. Martin Amis, qui est un grand écrivain britannique, qui s'appelle « La flèche du temps ». Où il imagine quelqu'un qui vivrait autour de parmi nous et qui se souviendrait du futur et pas du passé. Donc ça serait un petit peu particulier son existence. Mais finalement, donc ça veut dire que pour nous, mais je pense que c'est une question vraiment mystérieuse et à laquelle vraiment on n'a pas de réponse et on n'a pas même d'embryon de réponse, encore une fois, pourquoi on se souvient du passé et pas du futur? Je pense que c'est une question extrêmement importante. Et encore une fois, puisque vous n'avez pas la réponse, eh ben, vous avez jusqu'à l'année prochaine, cette fois, jusqu'au prochain festival, pour apporter la réponse. Et quand il s'agit d'une... Alors nous, à cause de ça, on a l'habitude de dire, eh bien, on va parcourir notre vie du passé vers le futur. Mais encore une fois, ma vie, elle va de ma naissance à ma mort. Pourquoi je la parcours dans un certain ordre, événement par événement, en me souvenant du passé et pas du futur? Pourquoi je vais dire je la parcours donc du passé vers le futur? Ça, c'est parce que je me souviens donc du passé. Et pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Mais si je regarde, je ne sais pas moi, un atome, une molécule ou même une étoile qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de volonté, est-ce que ça a un sens de dire que cette étoile, elle vit sa vie du passé vers le futur plutôt que du futur vers le passé? Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, la vie de l'étoile, elle ne va ni du passé vers le futur, ni du futur vers le passé. Il y a une étoile qui a sa vie. Moi, si je l'observe, je vais l'observer avec le sens dans lequel moi-même je parcours mon existence, c'est-à-dire du passé, et je vais appeler les événements passés de l'étoile, futur de l'étoile. Mais encore une fois, ces événements, du point de vue physique, ils ont exactement le même statut. Et quand on regarde, par exemple, le système solaire, on va dire, bah, à partir de la position des planètes aujourd'hui, bah, c'est vrai, je peux prévoir et calculer la position des planètes dans le futur, mais je peux également, avec les mêmes équations et la même précision, calculer la position des planètes dans le passé. Donc, en général, on est plutôt intéressé à faire des précisions, pardon, des prévisions en physique, parce que ça nous intéresse davantage de savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais pourquoi ? Simplement parce que le passé, on le connaît déjà. Mais du point de vue de la physique, c'est un problème strictement équivalent de faire des prévisions de ce qui va se passer dans le futur ou de faire des rétrodictions pour retrouver à partir de la situation d'aujourd'hui ce qui s'est passé dans le passé. Donc cette distinction passé-futur, elle vient de nous. Comment ça marche ? Je n'en sais rien.
Voilà. Vous avez 2 heures.
Je vais, si vous me permettez, Asimov a traité ça dans votre question, justement.
Pardon ?
Asimov a traité ça, comment définir le futur ?
Ah, Asimov a traité ça. Bon, dans quel...
Non, non, mais c'est juste comment déterminer le futur d'une société par rapport à son passé ?
D'accord. Ben oui, alors ça, c'est du déterminisme. Le déterminisme en sociologie, ça marche avec certaines limites, quoi.
Non, mais c'est...
Oui, bien sûr.
On va donc terminer cette rencontre avec Gilles Adin et Marc Lachaiseret. Marc, donc si vous êtes si vous avez aimé rencontrer Marc, parce que Gilles, tu n'as pas publié, hein, je dis pas de bêtises, est au Salon du Livre et a écrit notamment, bah, que j'ai acheté moi-même tout à l'heure, Voyager dans le temps. Donc il est disponible au Salon du Livre, allez-y, tu restes encore un peu en dédicace, il me semble. Et bah, vous pouvez aussi poursuivre la discussion si vous le souhaitez dehors. En tout cas, applaudissons nos deux intervenants d'aujourd'hui pour cette belle rencontre. Pour cette première rencontre de vulgarisation scientifique. C'est une grande première pour le festival et c'est pas une grande dernière, ça c'est sûr. On va continuer à travailler de plus en plus sur le côté des sciences. Hein, le programme de la journée continue. J'ai entendu que ça applaudissait aussi en bas, donc j'imagine que la table ronde sur l'Uchronie vient de se terminer. Les programmes suivent, merci d'être là et on continue les interactifs jusqu'à ce soir, point d'heure.